Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien, micro de Radio Grand Ciel, pour vous présenter aujourd'hui l'émission Par ici, les sorties, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité culturelle en Eure-et-Loir. Nous allons parler de Mosaïque aujourd'hui, car l'association Les 3R, en partenariat avec la ville de Chartres, vous propose une nouvelle exposition de mosaïque à la chapelle Saint-Aimant du 28 janvier au 19 mars. Passage, c'est l'intitulé de cette expo, vous permettra de découvrir le travail d'une jeune et talentueuse mosaïste, Suzanne Ripp, que nous aurons tout à l'heure au téléphone. En attendant, je remercie de sa présence dans nos studios Cathy Chenu, directrice de l'association Les 3R, comme rénover, restaurer et réhabiliter. Cathy, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, l'association Les 3R est une des associations chartraines les plus importantes, tant par la diversité de ses activités que par son impact socio-économique sur la vie des quartiers où elle exerce ses compétences. Car si Les 3R sont nés, si je ne m'abuse, en 1990, dans le quartier des Hauts de Chartres, ils œuvrent aujourd'hui à Beaulieu, Bel Air et Saint-Chéron. Alors Cathy, comment l'aventure a-t-elle commencé ?
Donc l'aventure a commencé il y a exactement un peu plus de 30 ans, puisque c'est en 86 qu'une première association, voilà, une première association a été créée. Et effectivement, en 90, compte tenu de ses activités, elle a obtenu le label de régie de quartier qui était mise en œuvre à l'époque sur plusieurs villes et qui a permis de décliner un concept, un idéal pour faire de l'insertion par l'activité économique un support à la réinsertion sociale, à l'implication des habitants d'un quartier pour rénover, entretenir et avoir un impact positif sur la vie de leur quartier.
Oui, c'est un quartier qui était réputé difficile. C'est pourquoi, en fait, l'association a été créée, je suppose, du moins.
Oui, voilà, à l'époque, il y avait donc un quartier ghettoisé, si l'on peut dire, Batna Constantine, qui effectivement cumulait un certain nombre de handicaps. Et il y a eu des volontés politiques de faire évoluer les choses avec de nouer sur le quartier du lien social et de proposer aux habitants des outils qui leur permettent de se projeter dans un avenir.
Alors, les régies de quartier ont un fonctionnement un peu particulier puisqu'elles associent dans un même effort de réhabilitation les partenaires sociaux et les habitants du quartier, ce qui change tout dans les rapports, enfin en tout cas je l'imagine.
Alors en fait, le partenariat se noue entre une collectivité locale, donc la ville sur les quartiers, et puis le bailleur social, effectivement, puisque bien souvent on est sur des quartiers avec beaucoup d'habitat social, des quartiers dits prioritaires, et effectivement l'association. Donc ça fait, on va dire, un peu un effet exponentiel positif de travail en commun sur faire effectivement travailler quelqu'un à entretenir sa cage d'escalier en le rémunérant et donc derrière en lui donnant un statut social, de par le travail, ça génère à la fois du lien social avec les habitants, ça génère un respect du travail des autres salariés, un respect de son environnement, a priori, ça aide aussi à avoir un plus beau quartier. Ouais. C'est le concept.
Ouais. Est-ce que, parce qu'il en existe une, par exemple, aujourd'hui à Mainvilliers, je le sais, une régie de quartier.
Également à Lucé, oui.
Et à Lucé, c'est vous qui êtes les premiers à en avoir fait une dans l'agglomération chartraine ?
Pour ma part, je ouais. pense que c'est nous, oui, 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 tout à fait.
Voilà, vous avez été suivi.
Eh bien après, effectivement, ça s'est décliné et puis ça résulte, comme on le disait, d'une volonté des partenaires localement. Ça peut être à l'initiative d'un conseil départemental. Enfin, aujourd'hui, il se crée toujours des régies de quartier ou des régies de territoire sur la France en fonction des problématiques locales et c'est un concept qui a quand même fait ses preuves pour nouer du lien et pour rendre attractif un quartier et aussi redonner, dans le contexte économique difficile, redonner un travail, un statut, comme je le disais, et puis permettre également de répondre aux obligations liées au revenu minimum, au RSA par exemple. retour d'activité, eh bien, nous sommes complètement là-dedans puisque nous avons un partenariat avec le département pour remettre en activité un maximum de personnes.
Ouais. Alors en 1992, la régie de quartier des Hauts-de-Chartres a créé un atelier de mosaïque pour compléter les activités existantes, mais celles-ci n'ont pas disparu, on en parle moins peut-être que de la mosaïque, mais pourtant ces activités sont très nombreuses, il y a de la menuiserie, ménage, lingerie, entretien de vélo ou d'espaces verts, il faut du monde pour accomplir toutes ces missions. Alors combien de personnes employez-vous et donc sous quels critères, car je le rappelle et vous venez de le dire, les 3R accomplissent avant tout une mission d'insertion par l'emploi et l'activité économique.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, notre partenariat, il est principalement avec l'État, puisque pour employer des personnes en très grande difficulté, il faut qu'elles nous soient orientées par le Pôle emploi et simplement validées par le Pôle emploi sur des profils effectivement de difficultés sociales, professionnelles, vraiment identifiées. Donc à partir de là, on peut embaucher une personne en emploi sur des activités, ce qu'on appelle des activités support, qui effectivement permettront de reprendre confiance à la personne, de retrouver les réflexes, de se présenter à l'heure un travail dans un premier temps. Enfin, c'est un travail un peu au long cours qui, effectivement, n'est pas perceptible forcément du jour au lendemain. Mais on va dire que sur le temps de passage dans la structure, on leur permet pour certains de trouver un logement, de régler un certain nombre de difficultés sociales et également, effectivement, de reprendre un petit peu une stature professionnelle avec des exigences, on va dire, moindre peut-être que dans un emploi classique, puisqu'elles ne sont pas capables du jour au lendemain de reprendre un emploi classique, ayant été trop longtemps écartées du milieu du travail.
D'accord. Donc le profil, oui, c'est une personne qui n'a pas travaillé depuis très longtemps, qui a peut-être même perdu contact avec la recherche d'emploi.
Oui, voilà, tout à fait. Pour certains, oui, ça. Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont quand même identifiées par le Pôle emploi, donc quelque part inscrites et en recherche d'emploi, mais plus ou moins active. Et effectivement, dans le contexte économique actuel, on a de moins en moins de postes non qualifiés ou très peu qualifiés.
On peut facilement se décourager.
Et voilà, c'est la difficulté. Donc on accueille, on va dire, à peu près une centaine, un peu plus d'une centaine de salariés en insertion par an, mais bon, pas en même temps. Donc on est avec à peu près en temps mensuel à une soixantaine, 65 personnes en réinsertion sur des temps partiels. Voilà, puisqu'on leur laisse un peu de temps dans leur semaine pour faire des démarches à leur initiative. Ouais. Enfin, il y a souvent pas mal de choses à gérer sur le volet social.
Donc les activités sont nombreuses, menuiserie, ménage, lingerie, entretien de vélo ou d'espace vert. Comment ça se passe? J'ai un petit travail à faire chez moi de menuiserie, je peux vous appeler, c'est ça?
Voilà, n'hésitez pas à nous appeler, on essaye de répondre dans la mesure de nos moyens à toutes les demandes. On peut aussi faire un peu de débarras, des petites choses qui ne demandent pas forcément une qualification, mais de l'énergie, de la motivation des bras, et là on est toujours opérationnel.
Et vous travaillez uniquement avec des particuliers ou
Non, donc on a effectivement un gros partenariat avec le bailleur social Chartres Habitat, qui est maintenant métropole. Donc il nous fait travailler sur plusieurs quartiers de la ville, notamment Beaulieu-les-Clos, Saint-Cheron en partie, et puis Bel Air et Haute-Chartres plus exactement. Avec la ville également, on a ce qu'on appelle des marchés d'insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'on est là non seulement identifié en tant qu'opérateur pour faire exécuter une prestation, mais également on est reconnu en tant qu'accompagnant en mettant à disposition de nos salariés un environnement de conseiller en insertion sociale, enfin un encadrement qualifié qui est là pour accompagner la personne, indépendamment de simplement proposer du travail, on va dire. Voilà.
Alors, Cathy Chenu, parlons mosaïque à présent, parce qu'en 1992, je le disais tout à l'heure, les 3R ont ouvert un petit atelier de mosaïque, et un quart de siècle plus tard, la mosaïque est devenue votre emblème, avec entre autres l'organisation des rencontres internationales de mosaïque de Chartres. Alors comment avez-vous réussi ce tour de force de passer d'un petit atelier à des rencontres internationales?
Bien, c'est à l'initiative, on va dire, d'un groupe de bonne volonté et quelques personnes qui étaient très très motivées. Donc Patrick Macaire, effectivement, ancien directeur, qui a toujours eu cette sensibilité, qui a comment dire, voulu faire vivre le projet Picassiette, puisque au départ, la mosaïque, pourquoi? Parce que nous sommes implantés sur le quartier des Hauts-de-Chartres, lieu de construction, enfin de la maison de Picassiette.
On va rappeler juste à nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiarisés avec la vie chartraine, avec la culture locale, qui était Picassiette. Donc c'était un de ces artistes un peu
naïf, ou oui. Voilà, on va dire, comme on connaît plus peut-être le facteur cheval, mais quelqu'un qui a voulu rendre son entourage plus beau et qui a, au cours de ses promenades, ramassé des petits morceaux de verre, les petits morceaux de céramique, et qui petit à petit en a décoré sa maison. Donc l'idée de la mosaïque, c'était effectivement de donner à chacun la possibilité d'être un artiste pour embellir son environnement et pour se dire que de rien, même si on est quelqu'un de peu considéré par la société, puisque Raymond Isidore dit Picassiette était balayeur de cimetière, on peut réaliser une œuvre. Voilà, c'est aussi sur ce volet-là. Donc les rencontres internationales, eh bien, comme Patrick Macaire, Paul Fuchs, qui avait écrit un livre sur Picassiette également, la présidente Christiane Fraval à l'époque, je crois, et puis plusieurs artistes mosaïstes aussi, ont œuvré dans le sens de mettre cette manifestation en place, et puis également le fait que Chartres soit jumelée avec Ravenne. Ouais. Voilà, une ville où la mosaïque est très très présente. Et puis ça fait émerger cette idée.
Ouais. Vous avez donc toujours des liens avec la ville de Ravenne et des mosaïstes italiens?
Alors effectivement, par le temps, depuis effectivement 92,
hein.
Voilà,
ça
depuis
fait un quart
92,
de siècle,
on a des liens avec un certain nombre d'artistes, un petit réseau, et puis toujours de façon contemporaine, puisque pendant l'année 2017, on va programmer un artiste ravenat à Saint-Aimant, Luca Barberini, et effectivement, l'année passée, on avait accueilli le collectif CACO3 pendant l'été à Saint-Aimant, qui est également un collectif ravenat. Et c'est vrai que cette année, il y a aussi l'anniversaire du jumelage de la ville de Chartres avec Ravenne. Donc,
de grandes festivités en perspective.
On essaye de maintenir des contacts rapprochés avec Ravenne, qui eux-mêmes font une biennale de mosaïque les années impaires, donc en alternance avec Chartres.
Avec Chartres. Le Festival international donne l'occasion d'admirer évidemment des œuvres un peu partout, parce que je crois que vous êtes également à Fulbert, au lycée Fulbert, à la chapelle du lycée Fulbert, non? Lorsqu'il y a les rencontres,
voilà,
internationales.
Le lieu de l'exposition des rencontres internationales se passe à la chapelle du lycée Fulbert.
Prochain rendez-vous, c'est quand, les rencontres internationales? Cette année, en 2017, c'est au mois de...
Donc c'est en 2018, puisqu'on fait ça sous forme de biennale. Donc on va bientôt travailler à la prochaine édition, effectivement.
Il va falloir patienter un peu, ou alors aller à Ravenne cette année, alors. Si
c'est ça,
compris.
En octobre 2017, Ravenne proposera aussi son exposition de mosaïques.
En attendant, puisque vous accueillez tout au long de l'année des mosaïstes rue Saint-Aimant dans la petite chapelle éponyme, qui est devenue un lieu entièrement dévolu à cette discipline artistique, hein, maintenant il n'y a plus que de la mosaïque, hein, à la chapelle Saint-Aimant. Donc une expo qui s'ouvre ces jours-ci, qui s'appelle Passage, et qui nous donne l'occasion de découvrir le travail de Suzanne Ripp. Suzanne Ripp, qui, si tout va bien, doit être au bout du fil. Suzanne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez abordé la mosaïque en 2001, mais vous travailliez déjà dans le monde de l'art. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous retracer votre parcours?
Effectivement, en fait, j'ai... Avant d'aborder l'art, on va dire, pour moi-même, par moi-même... J'ai d'abord travaillé en tant que costumière pour la danse, notamment avec le chorégraphe Joseph Nadge, entre autres. J'ai aussi participé à différentes structures artistiques, musicales, notamment le groupe Burning Heads, avec qui j'ai un peu travaillé aussi. Et puis après, ben, je me suis lancée sur mon chemin personnel.
Oui, c'est donc en 2001, je crois que vous avez entamé une formation pour devenir mosaïste. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette, à la fois cette technique et les matériaux, sans doute?
La pierre, cette image minérale. C'est vrai que je m'en étais pas rendu compte avant, et puis il y a eu un moment une accroche. J'ai hésité avec un peu aussi avec la céramique, que je suis d'ailleurs par ailleurs en train d'apprendre maintenant. Mais oui, c'était cet aspect minéral, ce côté fragmenté, je pense, qui m'a interpellée aussi, le côté en même temps image un peu picturale du coup, mais le fait que ça soit en trois dimensions. Voilà, entre autres.
Les volumes, après, vous vouliez travailler les volumes. Alors, je crois que vous avez appris votre art avec deux maîtres italiens. C'est vraiment de maître à élève l'enseignement de la mosaïque.
Moi, c'est ce que j'ai connu.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter vos maîtres?
Je ne sais pas s'il y a un absolu, s'il y a un idéal. En fait, moi, je ne pouvais pas faire d'école ayant déjà premièrement passé l'âge réglementé, en tout cas en France, et l'école en Italie, à Spinbergo, c'était pas envisageable. Donc voilà, il a fallu que je passe par le biais d'une formation autre qui m'a amené en fait à choisir des ateliers et trouver des ateliers avec des mosaïstes avec qui j'ai pu faire mes premiers pas et apprendre à composer cette image fragmentée.
Est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux maîtres? Ce sont donc deux maîtres italiens. C'est vraiment un passage incontournable.
Non, pas
italien.
En fait, le premier s'appelait Antoine de Crozet. Il était à Montreuil. Donc c'était une personne assez âgée qui avait fait les Beaux-Arts à Paris et qui donc avait un atelier ouvert aux personnes qui voulaient faire des formations professionnelles. Donc il y a eu déjà d'une part avec lui une première année et j'ai complété par une deuxième année en allant à l'atelier à Bagnolet que dirigeait à l'époque Verdiano Marzi. Et là j'ai un peu complété en travaillant des techniques que j'avais pas travaillées et aussi pour avoir une autre vision, un autre regard sur une même expression artistique. Je trouvais que c'était important.
Oui. Alors qu'avez-vous appris durant cette initiation? Vous avez, je crois, commencé par apprendre à tailler des tesselles de marbre. Alors c'est quoi des tesselles de marbre?
Ce qu'on appelle en mosaïque une tesselle, c'est l'unité de la mosaïque, c'est-à-dire qu'une tesselle, c'est chaque pièce qui constitue cette image.
C'est dur, je me dis, le marbre, c'est quand même, c'est costaud. C'est...
Non.
Ah ben voilà.
Oui, c'est dur, mais justement, cette dureté fait que ça accepte la taille, en fait, ça fond comme une pâte de verre avec les mêmes outils. Si j'ai essayé, donc je sais comment ça répond. J'ai essayé en fait avec du bois le bois c'est plus mou, c'est même un bois dur, c'est plus souple et en fait ça réagit pas de la même façon, ça se taille moins bien. Oui. Donc effectivement, le marbre, alors après quand il y a des veines qui font que ça part un peu dans tous les sens, mais c'est aussi l'ouverture pour une autre forme de travail, en fait, qui ça va amener autre chose. Il y a toujours cette relation, en fait, entre la matière qu'on choisit de travailler et son essence.
Oui.
son essence même qui fait qu'elle part aussi dans le, d'une façon qu'on ne peut pas forcément contrôler. Et c'est ça qui est intéressant, oui. C'est que ça remet toujours en question.
Alors, chaque art a ses arcanes. Vous avez appris également, j'ai trouvé ce mot sur Internet, un très joli mot italien, l'andamenti. Qu'est-ce que ça veut dire ?
À mon sens, une belle traduction, c'est le chemin des tesselles. En fait, tout andamento, c'est parcourir, c'est cheminer. Ah. Et donc, en fait, c'est le terme en italien, il me semble, utilisé en fait pour décrire ces lignes. Oui. Parce qu'en fait, à la base, c'est un travail de ligne, finalement.
Oui, vous suivez finalement la ligne de la ligne du marbre, finalement. Vous obéissez aux matériaux.
Non.
Arrêtez de me dire non.
Il y a beaucoup de bois dans le travail de Suzanne.
Oui. Ouais.
J'ai vu qu'il y avait également du bois, oui. C'est une question que je voulais vous poser parce que vous faites partie de ces mosaïstes qui introduisent de nouveaux matériaux dans la mosaïque. Ouais. Et c'est le bois vraiment qui a votre préférence.
C'est pas que c'est la préférence. En fait, c'est le parcours artistique qui va être propre à chacun. Et c'est vrai que moi, la mosaïque, j'ai eu très vite envie de mêler justement cette matière minérale, cette expression propre de la ligne et aussi des couleurs qu'on a avec ces matières à d'autres matières pour raconter un peu autre chose, pour raconter une histoire qui m'est propre. Et qui, je me suis mise à utiliser l'expression minérale de la mosaïque, pas comme une fin en soi, mais comme un...
Comme un procédé médium. Narratif, quoi.
Oui, voilà, pour raconter quelque chose un peu autre. Et c'est vrai que j'ai commencé par le bois, c'est depuis très rapidement. J'y suis toujours, même si là ça évolue de toute façon toujours. Mais du coup, j'ai la plupart de mes pièces, il reste vraiment qu'une ligne. Très fine, qui d'ailleurs ça me nuit de plus en plus. Après, ça c'est le parcours qui veut ça. Ouais. Et du coup, ça, j'ai vraiment mêlé les deux, ouais, bois, mosaïque. Je voulais pas que. Pour moi, le bois c'est pas juste un support, en fait, c'est vraiment, vraiment une histoire. Une histoire.
Alors justement, il nous reste peu de temps, mais je voudrais savoir quelle histoire racontez-vous, avez-vous besoin de raconter finalement?
En fait, je me suis rendu compte, j'ai un travail très intuitif, et en faisant, en fait, on met toujours, enfin moi en tout cas, j'ai besoin de mettre du sens dans ce que je fais, et je pense que l'histoire que je poursuis avec cette ligne comme ça, ce chemin, c'est retrouver le lien, la continuité par rapport à la vie, par rapport à la dans mon travail, c'est toujours cette idée de transformation en fait donc je pense que c'est vraiment une espèce de quête pour comprendre un peu qu'on est là, qu'il y a tout un univers autour et que tout ça est lié et que le chemin se poursuit de différentes façons et qu'il y a toujours des métamorphoses possibles. En fait, dans ce qui m'a fait démarrer avec le bois, c'est de me retrouver face à un morceau de bois fossile, les bois fossiles ou bois pétrifiés. Et en fait, la matière organique, bois, est devenue de la pierre, mais vraiment complètement de la pierre. Et c'est ça, en fait, qui a vraiment été le déclencheur, qui a été à la genèse de ce travail-là que je poursuis. Toujours l'idée de dualité, de passage d'une forme à une autre. Voilà en gros.
Suzanne Ripp, un grand merci à vous. On arrive là au terme de cette émission. Je rappelle que vos mosaïques sont à découvrir donc du 28 janvier au 19 mars à la chapelle Saint-Aimant à Chartres. C'est une exposition qui est organisée par l'association Les 3R, dont j'ai reçu aujourd'hui la directrice Cathy Chenu. Merci beaucoup, Cathy, de votre présence. Si vous souhaitez, chers auditeurs, glaner de plus en plus de renseignements sur Les 3R, eh bien, faites comme moi, tapez Les 3R Chartres sur votre moteur de recherche. Et puis, vous pouvez aussi taper Suzanne Ripp et vous tomberez, comme je l'ai fait, sur son site et vous découvrirez comme ça de visu son travail avant, évidemment, d'aller le découvrir à la chapelle Saint-Aimant. Merci beaucoup. Restez à notre écoute. Un grand merci à Émilie, en régie. Et les programmes de Radio Rentiel, évidemment, se poursuivent.
Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind. Here's my version of it, internal whirlwind.
Here's my version of